Chapitre 12. Mission. L'aspect de notre guerre contre les pirates rouges, qui nous fit peut-être le plus de mal, était le sentiment écrasant de notre impuissance. On eût dit qu'une effrayante paralysie s'était emparée du pays et de ses dirigeants. Les tactiques des pirates étaient si incompréhensibles que la première année, nous restâmes sans réagir, comme frappés de stupeur. La seconde année, nous tentâmes de nous défendre, mais notre expérience militaire était rouillée. Ayant trop longtemps servi seulement contre des pillards occasionnels, qui n'avaient embrassé la carrière que par hasard ou poussés par la misère. Face à des pirates organisés, qui avaient étudié nos côtes, la position de nos tours de guet, nos marées et nos courants, nous n'étions que des enfants. Seul l'art du prince Vérité nous assurait quelque protection. Combien de navires il a détournés? Combien de navigateurs il a égarés? À combien de pilotes il a embrouillé l'esprit? Nous n'en saurons jamais rien. Et comme le peuple était incapable de comprendre ce que son prince faisait pour lui, on avait l'impression que les loin-voyants restaient les bras croisés. On ne voyait que les attaques réussies des pirates, jamais leurs bateaux drossés sur les récifs ou fourvoyés au sud durant une tempête. Et l'on perdit courage. Les duchés de l'intérieur renâclaient à payer des taxes destinées à protéger des côtes situées en dehors de leur territoire, et les duchés côtiers ployaient sous des impôts qui ne changeaient apparemment rien à leur sort. Aussi, l'enthousiasme populaire que soulevaient les navires de guerre de Vérité était-il fort changeant, car il allait et venait au gré de l'estime que le peuple portait au prince, ce qu'on ne peut lui reprocher. Cet hiver-là me parut le plus long de mon existence. Du cabinet de Vérité, je me rendis aux appartements de Kétriken. Je frappai à la porte, et la même petite fille que d'habitude m'ouvrit. Avec son visage rieur et ses cheveux sombres et bouclés, Romarin m'évoquait une fée des étangs. Il régnait une atmosphère en demi-teinte dans la pièce où j'entrais. Plusieurs dames de compagnie de Kétriken s'y trouvaient, assis sur des tabourets autour d'un cadre tendu d'un tissu de lin blanc. Elles embrodaient les bords de fleurs et de feuillages de couleurs vives. J'avais assisté à des séances similaires chez Maîtresse Pressée. En général, c'était une activité gaie où l'on papotait amicalement tandis que les aiguilles couraient en tirant leurs queues multicolores au-dessus et en dessous de la toile épaisse. Mais ici, c'était le silence presque absolu. Les femmes travaillaient la tête penchée, diligemment, avec habileté, mais sans bavardage enjoué. Des chandelles parfumées roses et vertes brûlaient à chaque angle de la pièce, et leurs fragrances subtiles se mêlaient autour du tissu. Kétriken présidait la tâche, et ses mains n'étaient pas les moins actives. Elle semblait être la source du mutisme général. Son visage était composé, voire serein, pourtant, elle était si renfermée sur elle-même que j'avais l'impression de voir des murailles dressées autour d'elle. Elle avait une expression aimable, de la douceur dans les yeux, mais je la sentais ailleurs. Elle m'évoquait un lac d'eau fraîche et immobile. Elle était vêtue avec simplicité d'une longue robe verte, plus proche de la mode des montagnes que de celle de Castelser, et n'arborait pas le moindre bijou. À mon entrée, elle leva les yeux et me sourit d'un air interrogateur. J'eus le sentiment d'être un intrus, d'interrompre le cours d'un maître à ses élèves. Du coup, au lieu de la saluer simplement, je m'efforçais de justifier ma présence et dis d'un ton formel, conscient de toutes les femmes qui me regardaient, « Reine Kétriken, le roi servant Vérité m'a prié de vous apporter un message. » Il y eut comme un vacillement dans les yeux de la reine, puis cela disparut. « Oui ?» fit-elle d'une voix neutre. Aucune aiguille n'hésita dans sa danse sautillante, mais j'étais certain que toutes les oreilles étaient tendues dans l'attente de ma communication. Au sommet d'une tour se trouvait autrefois un jardin, connu sous le nom de Jardin de la Reine. Il était garni, a dit le roi Vérité, de bacs de verdure et de bassins, décorés de fleurs, de poissons et de carillons éoliens. Sa mère l'avait créé. Ma reine, il souhaite qu'il vous revienne. Le silence se fit profond. Kétriken avait écarquillé les yeux. Elle demanda d'un ton circonspect : « Êtes-vous certain de ce message ? Naturellement, madame. Sa réaction me déconcertait. Il a dit qu'il aurait grand plaisir à le voir restauré. Il en a parlé avec beaucoup d'affection, surtout au souvenir des parterres de thym. La joie s'épanouit sur le visage de Ketriken, comme les pétales d'une fleur au soleil. Elle porta la main à sa bouche, prit une inspiration tremblante entre ses doigts, ses joues pâles rosirent, ses yeux se mirent à briller. « Il faut que je voie ce jardin !» s'exclama-t-elle. « Il faut que je le voie tout de suite !» Elle se dressa brusquement. « Romarin, mon manteau et mes gants, je te prie !» Elle regarda ses suivantes d'un air rayonnant. « Ne voulez-vous pas vous couvrir aussi, et m'accompagner ?»« Ma reine, la tempête fait rage !» fit l'une d'un ton hésitant. Mais une autre, dame simple, plus âgée, les traits empreints de douceur maternelle, se mit lentement debout. « Je vais aller avec vous sur la tour. Pluche ?» Un petit garçon qui somnolait dans un coin se dressa d'un bond. « Cours me chercher mon manteau et mes gants, et ma capuche. Et à Ketriken. Je me rappelle bien ce jardin à l'époque de la reine Constance. J'y ai passé nombre d'heures plaisantes en sa compagnie, et je serai heureuse de le voir remis en état. » Le temps d'un battement de cœur, et toutes les autres dames l'imitèrent. Lorsque je revins avec mon propre manteau, elles étaient prêtes à se mettre en route. Je ressentis une impression bizarre à mener cette procession de dames par le château, puis dans le long escalier qui montait au jardin de la reine. En comptant les pages et les curieux, il y avait maintenant près d'une vingtaine de personnes à nous accompagner, Ketriken et moi. La reine servante me suivait de près dans les marches. Les autres s'étiraient en une longue queue derrière nous. Comme je pesais sur la lourde porte pour repousser la neige amoncelée au dehors, Ketriken me demanda à mi-voix. « Il m'a pardonné, n'est-ce pas ?» Je cessai mes efforts pour reprendre mon souffle. Donner de l'épaule contre la porte n'arrangeait pas ma blessure au cou, et une douleur sourde battait dans mon bras. « Ma reine ? » fis-je en guise de réponse. « Monseigneur Vérité m'a pardonné, et c'est sa façon de me le montrer. Oh, je vais nous faire un jardin pour nous deux. Plus jamais je ne lui ferai honte. » Et, un sourire radieux aux lèvres, elle ouvrit grand la porte d'un coup d'épaule désinvolte. Tandis que je clignais les yeux dans le froid et la lumière du jour hivernal, elle s'avança sur le sommet de la tour en s'enfonçant dans la neige craquante jusqu'à mi-mollet, sans en paraître gênée le moins du monde. Je regardais autour de moi et me demandais si je n'avais pas perdu l'esprit. Il n'y avait rien à voir que la neige durcie sous un ciel plombé. Le vent l'avait poussé sur les statues et les bacs entassés pêle-mêle contre un mur. Je m'armai de courage pour affronter la déception de Ketriken. Mais bien au contraire, plantée au milieu de la tour, environnée de flocons que le vent faisait tourbillonner, elle ouvrit les bras et tourna sur place en éclatant d'un rire de petite fille. « C'est magnifique !» s'exclama-t-elle. Je la rejoignis prudemment, suivie de quelques dames. Un instant plus tard, Ketriken se trouvait au milieu du millimilo de statues, de vases et de pots de fleurs. Elle enleva la neige de la joue d'un chérubin aussi tendrement que s'il s'agissait de son enfant. Puis elle dégagea un banc de pierre, prit le chérubin et l'y posa. Ce n'était pas une petite statue, mais Ketriken mit vigoureusement à profit sa taille et sa force de montagnarde pour extraire plusieurs autres pièces de l'accumulation de neige. Chaque œuvre d'art lui arrachait des cris d'admiration, et elle insistait pour que ses suivantes viennent s'extasier avec elle. Je me tenais un peu à l'écart. Le vent glacé qui soufflait sur moi réveillait à la fois la douleur de mes blessures et des souvenirs amers. Je m'étais trouvé sur cette tour autrefois, presque nu face au froid, alors que Galen tentait de m'apprendre l'art par la force. Je m'étais trouvé là, en ce lieu précis, tandis qu'il me fouettait comme un chien. Et là encore, je m'étais battu contre lui, et au cours de ce combat, j'avais mutilé, brûlé l'art que je possédais. Cette tour conservait pour moi une aura sinistre, et je n'étais pas sûr de pouvoir y goûter le charme d'un jardin, fût-il le plus verdoyant et le plus paisible de tous. Un muret me tirait l'œil. Je savais qu'en m'en approchant, pour regarder par-dessus, je verrais un appic rocheux. Je ne bougeais pas. La mort rapide qu'une chute m'aurait procurée autrefois ne m'attirerait plus jamais. Je repoussai la suggestion que Galen m'avait imposée par l'art et me retournai pour observer la reine. Sur le fond blanc de la neige et de la pierre, ses couleurs s'avivaient. Il existe une fleur nommée Perce-Neige, qui fleurit parfois au moment où les congères de l'hiver commencent à disparaître. La reine m'évoquait cette fleur. Ses cheveux pâles prenaient soudain des teintes or sur le manteau vert qu'elle portait. Ses lèvres étaient plus rouges, ses joues plus roses, comme le lilas qui refleurirait un jour ici. Ses yeux étaient deux saphirs étincelants, cependant qu'elle mettait au jour un trésor après l'autre avec des cris de bonheur. Le contraste était extrême avec ces dames de compagnie aux tresses sombres, aux yeux noirs ou bruns, emmitouflées dans leur manteau pour se protéger du vent. Voici comme en vérité devrait la voir, songeai-je, irradiant l'enthousiasme et la vie, alors il ne pourrait s'empêcher de l'aimer. La vitalité de la reine flamboyait à l'égal de celle du prince lorsqu'il chassait ou montait à cheval. Autrefois, du moins.
C'est tout à fait charmant, naturellement, dit une certaine dame Espérance, avec hésitation. Mais il fait très froid, et on ne peut pas faire grand-chose tant que la neige n'a pas fondu et que le vent ne s'est pas calmé.
Oh, détrompez-vous !
S'exclama la reine Kétriken. Elle éclata de rire en se relevant au milieu de ses trésors, puis regagna le centre de la tour. Un jardin prend naissance dans le cœur. Il faudra que je nettoie la glace et la neige demain matin, et ensuite que je dispose ses bancs, ses statues et ses bacs. Mais comment ?
Comme les rayons d'une roue ?
Comme un labyrinthe ?
Formellement, par taille et par thème ?
Il y a des milliers de façons d'arranger cette tour, et il faut que je fasse des essais. À moins peut-être que mon seigneur n'évoque pour moi ce jardin tel qu'il était. Alors, je recréerai le jardin de son enfance.
Demain, reine Kétriken,
intervint Dame Simple,
car le ciel se couvre et le froid s'accentue.
Visiblement, la montée des marches, puis la station dans le vent glacé, lui avait coûté. Mais elle poursuivit avec un sourire empreint de bonté.
« Si vous le désirez, je pourrais ce soir vous dire ce que je me rappelle de ce jardin. »« Vous voulez bien ?»
s'exclama Kétriken en lui prenant les mains. Le sourire qu'elle dédia à Dame Simple ressemblait à une bénédiction.
« J'en serais très heureuse !»
Et sur ces mots, notre procession quitta le sommet de la tour. Je fus le dernier à partir. Je refermai la porte derrière moi et attendis un moment que mes yeux s'habituent à l'obscurité de l'escalier. Plus bas, des chandelles montaient et descendaient au rythme du pas de leurs porteurs. Je rendis grâce aux pages qui avaient eu l'idée d'aller les chercher. Je m'engageai lentement dans les marches, de ma morsure au cou jusqu'au coup d'épée. Mon bras me lançait durement. Je repensai à la joie de Kétriken et m'en réjouis, tout en songeant avec un sentiment de culpabilité qu'elle était bâtie sur de fausses bases. Vérité avait été soulagée lorsque je lui avais suggéré de confier le jardin à Kétriken, mais pour lui, l'acte n'avait pas la signification qu'il avait pour son épouse. Elle se jetterait à corps perdu dans ce projet, comme si elle édifiait un sanctuaire consacré à leur amour. Vérité, lui, aurait sans doute oublié toute l'affaire dès le lendemain. Je me faisais l'impression d'être à la fois un traître et un imbécile. J'avais envie d'être seul pour le dîner. Aussi évitai-je la salle commune et me rendis-je dans la salle des gardes, attenante aux cuisines. Là, je tombai sur Burick et Pogne qui prenaient leur repas. Ils m'invitèrent à leur table et je ne pus refuser. Mais, une fois que j'eus pris place, j'eus le sentiment que j'aurais aussi bien pu ne pas être là. Je ne veux pas dire qu'ils m'excluaient de leur conversation, mais ils parlaient d'une existence que je ne partageais plus. L'immense variété de détails de ce qui se passait dans les écuries m'échappait complètement. Ils discutaient de divers problèmes avec l'animation et l'assurance d'hommes qui ont en commun un savoir intime. Plus le temps passait, plus je me contentais de hocher la tête sans rien dire. Ils allaient bien ensemble. Burick ne faisait preuve d'aucune condescendance envers Pogne, et Pogne ne dissimulait pas son respect pour un homme qu'il considérait manifestement comme son supérieur. En peu de temps, il avait beaucoup appris du maître d'écurie. Parti l'automne dernier de Castelserre, simple palefrenier, il parlait aujourd'hui avec compétence des faucons et des chiens, et posait des questions de fond sur les choix de Burick concernant les croisements des chevaux. Je n'avais pas fini de manger lorsqu'ils se levèrent de table. Pogne se faisait du souci pour un chien qui avait pris un coup de sabot plus tôt dans la journée. Ils me souhaitèrent une bonne soirée, puis sortirent sans cesser de discuter. Je restais à ma place. Il y avait du monde autour de moi, gardes et soldats qui se restauraient, buvaient et bavardaient. L'agréable brouhaha des voix, le bruit d'une cuillère qui heurte le flanc de la marmite, le son d'un couteau qui tape dans la table après avoir coupé un coin de fromage dans une meule, tout cela faisait comme une musique. La pièce avait une odeur de nourriture et de foule, de feu de bois, de bière renversée et de ragoût en train de mijoter. J'aurais dû ressentir de la satisfaction, pas de la nervosité, ni de la mélancolie, ni de la solitude.
Frère,
je viens. Retrouve-moi à la vieille porcherie.
Œil de Nuit était parti chasser loin.
J'arrivai le premier et l'attendis dans l'obscurité. J'avais apporté un pot d'onguent, ainsi qu'un sac plein d'eau. La neige tourbillonnait autour de moi en une danse infinie d'étincelles hivernales. Je scrutai les ténèbres. Je perçus sa présence, le sentis tout proche, mais il réussit tout de même à me sauter dessus par surprise. Miséricordieux, il ne fit que me pincer la peau et secouer mon poignet valide entre ses mâchoires. Ensuite, nous entrâmes dans l'abri. J'allumai un bout de chandelle, puis j'examinai sa blessure. J'étais fatigué la veille au soir, et j'avais mal, mais je m'aperçus avec plaisir que j'avais fait du bon travail. J'avais taillé le pelage épais et le duvet le plus ras possible autour de la plaie, que j'avais nettoyé avec de la neige propre. La croûte qui s'était formée était épaisse et sombre. Elle avait encore saigné pendant la journée, mais guère. Je l'enduisis d'une épaisse couche d'onguent. Œil de Nuit broncha légèrement, mais supporta mes soins. Quand j'eus fini, il tourna la tête et renifla la pommade.
« Graisse-toi, »
dit-il, et il se mit à la lécher. Je le laissai faire. Rien dans le produit ne pouvait lui faire de mal, et il l'enfoncerait mieux dans la blessure avec la langue que moi avec mes doigts.
« Faim ?»
demandai-je.
« Pas vraiment. Il y a des souris, tant que j'en veux, le long du vieux mur. »
Puis, en reniflant le sac que j'avais apporté,
« Mais je ne refuserai pas un peu de bœuf ou de venaison. »
Je vidai le sac devant lui, et il se jeta à plat ventre à côté du tas d'os. Il les renifla, puis choisit une articulation à laquelle adhérait encore de la viande.
« On va bientôt chasser ?»
Il me transmit l'image de Forgisé. « Dans un jour ou deux, je veux être capable de manier une épée la prochaine fois. »«
Je ne te le reproche pas. Des dents de vache, ça ne fait pas une bonne arme. Mais ne t'en pas trop. »
Pourquoi ?
Parce que j'en ai vu quelques-uns aujourd'hui, des sans-esprit. Ils avaient trouvé un cerf mort de froid au bord d'une rivière, et ils le mangeaient. De la viande pourrie qui puait, et ils la mangeaient. Mais ça ne les arrêtera pas longtemps. Demain, ils se rapprocheront.
Alors nous chasserons demain matin. Montre-moi où tu les as vus. Je fermai les yeux et reconnus la portion de rivière dont il m'envoyait l'image. J'ignorais que tu allais aussi loin. Tu as fait tout ce chemin aujourd'hui avec ton épaule blessée ?
Ce n'était pas si loin.
Je perçus de la fierté dans sa réponse.
Et puis, je savais que nous irions à leur recherche. Et je voyage beaucoup plus vite seul. Il est plus efficace que je les repère d'abord, puis que je t'amène sur place pour la chasse.
Ça n'a rien d'une chasse, Œil de Nuit.
Non, mais c'est pour la meute.
Je restai assis près de lui un moment dans un silence amical, et je l'observais qui rongeait les os que je lui avais apportés. Il avait bien grandi cet hiver. Soumis à un bon régime et libéré de sa cage, il avait pris du poids et du muscle. La neige avait beau tomber sur son pelage, les épais jarres noires qui se mêlaient à sa robe grise arrêtaient les flocons et empêchaient la moindre humidité de s'infiltrer jusqu'à sa peau. Et il avait une odeur saine, non pas celle rance, d'un chien trop nourri qui ne sort pas et ne prend jamais d'exercice, mais un parfum sauvage et propre.
Tu m'as sauvé la vie hier. Tu m'as sauvé de la mort derrière des barreaux.
Je crois que je suis seul depuis trop longtemps. J'avais oublié ce que c'était d'avoir un ami. Il cessa de mâchonner son os pour me regarder avec un vague amusement.
Un ami ? C'est un mot trop petit, frère, et qui va dans le mauvais sens. Alors ne me regarde pas comme ça. Je suis à toi ce que tu es à moi, un frère de lien et de meute. Mais tu n'auras pas toujours besoin que de moi.
Il se remit à ronger son os, et je ruminais pour ma part ce qu'il venait de me dire.
« Dors bien, frère, » lui dis-je alors que je m'en allais. Il eut un grondement dédaigneux. « Dormir ? Sûrement pas. La lune va peut-être réussir à traverser les nuages et à me donner un peu de lumière pour chasser. Mais sinon, en effet, je dormirai. »
Je hochai la tête et l'abandonnai à ses os. En me dirigeant vers le château, je m'aperçus que je me sentais moins seul et moins morose qu'auparavant. Mais j'éprouvais aussi un pincement de culpabilité à voir Œil de Nuit adapter si facilement sa vie et sa volonté aux miennes. J'avais l'impression qu'il se souillait en traquant les forgisés.
Pour la meute, c'est pour le bien de la meute. Les sans-esprit essayent de pénétrer sur notre territoire. Nous ne pouvons pas les laisser faire.
Ce concept lui paraissait tout à fait naturel, et il était surpris de mes réticences. Je hochai encore une fois la tête dans le noir, et poussant la porte des cuisines, je rentrai dans la lumière jaune et la chaleur. Je montai à ma chambre en réfléchissant à tout ce que j'avais fait ces derniers jours. J'avais décidé de rendre la liberté au petit loup. Au lieu de cela, nous étions devenus frères. Je ne le regrettais pas. J'étais allé avertir Vérité de la présence de nouveaux forgisés non loin de Castelserre pour m'entendre répondre qu'il était déjà au courant et récolter la mission d'étudier les anciens et d'essayer de retrouver d'autres artiseurs. Je lui avais demandé de donner le jardin de la reine à Kétriken afin de la distraire de ses sujets d'amertume et en réalité, je l'avais trompé en l'enchaînant plus encore à son amour pour Vérité. Je m'arrêtais sur un palier pour reprendre mon souffle. Nous étions peut-être tous en train de danser au son de la flûte du fou. Après tout, n'était-ce pas lui qui m'avait soufflé certaines de ses idées? Je sentis la clé de bronze qui tirait ma poche. Bah, maintenant ou plus tard? Vérité n'était pas dans sa chambre, mais Charim s'y trouvait. Il ne fit aucune difficulté pour me laisser entrer et me servir de la clé. Je pris une brassée des manuscrits que renfermait l'armoire. Il y en avait plus que je ne m'y attendais. Je les rapportais dans ma chambre et les déposais sur mon coffre à vêtements, puis préparais du feu et jetais un coup d'œil à mon pansement au cou. Ce n'était plus qu'un affreux bouchon de tissu saturé de sang. Il fallait le changer, je le savais, mais je tremblais de l'enlever. Dans un moment. J'ajoutais du bois sur le feu et triais les manuscrits, couvert d'une écriture en pâte de mouche et d'illustrations passées. Puis je levai les yeux et regardai ma chambre. Un lit, un coffre, une petite table de chevet, un broc et une cuvette pour la toilette. Une tapisserie franchement laide du roi Sagesse en train de parler avec un ancien jaunâtre. Un chandelier à plusieurs branches sur le manteau de la cheminée. Presque rien n'avait changé depuis la première nuit de mon installation, bien des années plus tôt. C'était une chambre vide et triste, sans imagination. Et soudain, je me sentis moi aussi vide, triste et sans imagination. Je chassais, je tuais, je rapportais. J'obéissais. Davantage chien qu'humain. Et même pas un chien préféré, que l'on caresse et que l'on complimente. Un chien de meute, utilitaire, c'est tout. Quand avais-je vu Subtil pour la dernière fois? Et Humbre? Même le fou se moquait de moi. Je n'étais plus, pour tout le monde, qu'un outil. Restait-il quelqu'un qui s'intéressât à moi personnellement? Brusquement, je ne me supportais plus. Je posai le manuscrit que j'étudiais et sortis. Quand je frappai à la porte de Patience, il y eut un moment d'attente. Puis, « Qui est là ?» fit la voix de Brodette. « C'est seulement Fitz Chevalerie. »«
Fitz Chevalerie ?»
répéta-t-elle d'un ton surpris. Il est vrai qu'il était un peu tard pour une visite,
En général, je venais pendant la journée. J'eus alors le soulagement d'entendre le bruit d'une barre que l'on fait glisser, puis d'un loquet que l'on soulève. Patience avait donc prêté attention à mes conseils. La porte s'ouvrit lentement, et Brodette s'écarta pour me laisser passer, un sourire incertain aux lèvres. J'entrai, saluai chaleureusement Brodette, puis cherchai Patience des yeux. Elle devait être dans la pièce d'à côté. Mais dans un angle, tout à ses travaux d'aiguille, était assise Molly. Elle ne me regarda pas, et ne manifesta en aucune manière qu'elle fût consciente de ma présence. Ses cheveux étaient ramassés en un petit chignon, surmonté d'une coiffe en dentelle. Sur tout autre, sa robe bleue aurait pu paraître simple et chaste. Sur Molly, elle était terne. Elle ne leva pas les yeux de son ouvrage. Je jetai un coup d'œil à Brodette et vis qu'elle m'observait sans se cacher. Je revins à Molly, et quelque chose céda en moi. En quatre pas, je traversai la pièce, puis je m'agenouillai près de son fauteuil, et comme elle s'écartait de moi, je pris sa main et la portai à mes lèvres. « Fitz Chevalerie !» Le ton de Patience était indigné. En tournant la tête, je la vis dans l'ouverture de la porte. Ses lèvres pincées exprimaient la colère. Je regardais Molly à nouveau. Elle avait détourné le visage. Sans lui lâcher la main, je dis calmement. « Je n'en puis plus. Tant pis si c'est une bêtise. Tant pis si c'est dangereux et peu importe le qu'en dira-t-on. Je ne peux pas rester éternellement séparée de toi. » Elle retira sa main et je dus la laisser pour ne pas lui faire mal. Mais je saisis sa robe et m'accrochai à un pli comme un enfant têtu. « Parle-moi au moins » implorai-je, mais ce fut Patience qui répondit. « Fitz Chevalerie, ce n'est pas séant, cesse immédiatement !» Il n'était pas non plus séant, ni judicieux, ni raisonnable de la part de mon père de vous courtiser. Pourtant il n'a pas hésité, je pense qu'il partageait tout à fait mon état d'esprit actuel. Je n'avais pas détourné les yeux de Molly. Ma répartie réduisit un instant Patience à un silence stupéfait. Mais alors, Molly posa son ouvrage et se leva. Elle s'écarta de moi, et quand il devint évident que je devais soit lâcher sa robe, soit déchirer le tissu, je la laissai aller. Elle s'éloigna d'un pas. « Si Madame Patience veut bien m'excuser pour la soirée. »«
Certainement, »
répondit Patience, d'un ton où ne perçait pourtant nulle certitude.
« Si tu t'en vas, je n'ai plus rien au monde. »
C'était trop théâtral, je le savais, j'étais toujours à genoux près de mon fauteuil. Si je reste, vous n'y gagnerez rien. Molly parlait avec calme, tout en ôtant son tablier, puis en le suspendant à un crochet. « Je suis une servante. Vous êtes un jeune noble de la famille royale. Il ne peut rien y avoir entre nous. » J'ai fini par le comprendre au cours des dernières semaines.
« Non !»
Je me remis debout et m'approchai d'elle, mais m'abstins de la toucher.
« Tu es Molly, et je suis le nouveau. »«
Autrefois, peut-être, » concéda-t-elle, puis elle soupira. « Mais plus maintenant. » Ne me rendez pas la tâche plus difficile qu'elle n'est, messire. Laissez-moi en paix. Je n'ai d'autre foyer qu'ici. Je dois travailler, au moins jusqu'à ce que j'aie assez d'argent. Elle secoua soudain la tête.
Bonsoir, madame.
Brodette ?
Messire.
Elle se détourna de moi. Brodette ne disait rien. Je notai qu'elle n'ouvrait pas la porte à Molly, mais celle-ci ne marqua pas la moindre pause et referma la porte derrière elle sans une hésitation. Un terrible silence s'abattit sur la pièce.
« Eh bien !»
fit enfin Patience. « Je me réjouis de voir qu'au moins l'un de vous deux fait preuve de bon sens. Mais qu'est-ce qui t'a pris, fils de chevalerie, de débarquer chez moi et d'assaillir ainsi ma femme de chambre ?»«
Il m'a pris que je l'aime, »
répondis-je sans embâge. Je me laissai tomber dans un fauteuil et me fourrai la tête entre les mains.
« Il m'a pris que j'en ai plus qu'assez d'être seul. »
« Et c'est à cause de ça que tu es venu ?» Patience paraissait presque vexée.
« Non, c'est vous que j'étais venu voir. J'ignorais qu'elle serait chez vous. Mais quand je l'ai aperçue, ça a été plus fort que moi. C'est vrai, Patience. Je n'en peux plus. »
« Eh bien, il va falloir serrer les dents parce que ce n'est pas fini. » Les mots étaient durs, mais elle les prononça dans un soupir.
Est-ce que Molly en parle? Parle de moi, à Brodette et vous. Il faut que je sache, je vous en supplie. »
J'essayais d'abattre la muraille de leur silence, des regards qu'elles échangeaient.
Souhaite-t-elle vraiment que je la laisse tranquille? Me méprise-t-elle à ce point? N'ai-je pas obéi à toutes vos exigences? J'ai attendu patience, je l'ai évité, j'ai pris soin de ne pas prêter le flanc au commérage. Mais quand cela finira-t-il?
À moins que tel ne soit votre plan. Nous empêcher de nous voir jusqu'à ce que nous nous oublions l'un l'autre, ça ne marchera pas. Je ne suis pas un enfant, et Molly n'est pas une babiole que vous me dissimulez pour me distraire avec d'autres jouets. C'est Molly, elle est ma vie, et je ne la laisserai pas partir.
Je regrette, mais il le faut, dit Patience d'un ton amer.
Pourquoi? On a-t-elle choisi un autre? D'un geste, Patience écarta ma question comme on chasse une mouche.
Non, elle n'est pas volage. Elle est intelligente, zélée. Elle a l'esprit vif et beaucoup de courage. Je vois bien que tu l'aimes. Mais elle a aussi de la fierté et elle a fini par comprendre ce que tu refuses de voir. Que vous êtes l'un et l'autre issus de rangs si éloignés qu'ils ne peuvent se rencontrer. Même si Subtil consentait à votre mariage, ce dont je doute fort, comment vivriez-vous? Tu ne peux quitter le château pour t'installer à Bourg-de-Castelserre et tenir une chandellerie. Tu le sais parfaitement. Et quel serait son statut à elle si vous restiez ici?
Malgré toutes ses qualités, les gens qui ne la connaîtraient pas bien ne verraient que votre différence de rang. On la considérerait comme l'objet d'un vil appétit que tu aurais satisfait.
Ah, le bâtard reluquait la boniche de sa belle-mère, il a dû la serrer d'un peu près dans un coin une fois de trop, et maintenant il doit payer les pots cassés.
Tu connais le genre de réflexion dont je parle.
Je les connaissais. Je me fiche du qu'en dira-t-on. Toi, tu le supporterais peut-être. Mais Molly, et vos enfants?
Je ne répondis pas. Patience baissa les yeux sur ses mains posées sur son giron.
Tu es jeune, Fitz-Chevalerie.
Elle s'exprimait d'une voix très douce, apaisante. Je sais que tu ne me croiras pas pour l'instant. Mais tu en rencontreras peut-être une autre. Une qui soit plus proche de ton rang. Et Molly aussi, de son côté. Elle mérite peut-être cette occasion de connaître le bonheur. Tu devrais te retirer, te donner une année, et si, à ce moment-là, ton cœur n'a pas varié, eh bien, mon cœur ne changera pas.
Ni le sien, je le crains,
dit Patience sans ménagement.
Elle t'aimait, Fitz. Sans savoir qui tu étais réellement, elle t'a donné son cœur. C'est ce qu'elle m'a dit.
Je ne veux pas trahir ses confidences, mais si tu fais ce qu'elle te demande et que tu la laisses tranquille, elle ne pourra jamais te le dire elle-même. Aussi, vais-je parler, en espérant que tu ne m'en voudras pas du mal que je dois te faire. Elle sait que votre amour n'a pas d'avenir. Elle ne souhaite pas être considérée comme une servante mariée à un noble. Elle ne souhaite pas que ses enfants soient les fils et les filles d'une servante du château. C'est pourquoi elle économise le peu que je puis la payer. Elle achète sa cire et ses parfums, et continue à pratiquer son métier du mieux possible. Elle projette de gagner suffisamment d'argent pour monter sa propre boutique de chandelles. Ce n'est pas pour tout de suite, mais tel est son but.
Patience se tut un instant.
Elle ne voit pas de place pour toi dans cette vie.
Je réfléchis longuement. Ni Brodette ni Patience ne disaient rien.
Brodette se déplaçait sans bruit, occupée à préparer du thé dont elle me plaça une tasse dans la main. Je levai les yeux vers elle et tentai de lui sourire, puis je posai soigneusement la tasse à côté de moi.
Saviez-vous depuis le début qu'on en arriverait là?
Demandai-je.
Je le craignais,
répondit Patience, avec simplicité.
Je savais aussi que je n'y pouvais rien, et toi non plus.
Je restais sans bouger, sans même penser.
Sous la vieille porcherie, dans un trou qu'il avait dégagé, Œil de Nuit dormait, le museau posé sur un os. Je le touchais doucement sans le réveiller. Sa respiration calme était une ancre à laquelle je me raccrochais.
Fitz, que vas-tu faire?
Des larmes me piquaient les yeux. Je battis des paupières, et cela passa.
Ce qu'on me dit de faire, répondis-je, amer, comme toujours.
Patience garda le silence pendant que je me levais lentement. La blessure à mon cou battait sourdement. Je n'avais soudain plus qu'une envie. Dormir. Je priai Patience de m'excuser, et elle hocha la tête. À la porte, je m'arrêtai. J'ai oublié de vous dire le but de ma visite, à part vous voir. Ketriken va restaurer le jardin de la reine, celui qui se trouve au sommet de la tour. Elle aimerait savoir comment il était arrangé à l'origine, du temps de la reine Constance. J'ai songé que vous pourriez peut-être lui faire part de vos souvenirs. Patience hésita. Je me le rappelle, en effet. Et très bien. Elle se tut un instant, puis d'un air rayonnant. Je vais t'en faire un plan que je t'expliquerai. Ainsi, tu pourras le détailler à la reine. Je croisai son regard. Vous devriez le faire vous-même, je crois. À mon avis, ça lui ferait très plaisir. Fitz, je n'ai jamais été à l'aise avec les gens. Sa voix s'altéra. Elle me trouverait bizarre, j'en suis sûr. Ennuyeuse, je ne pourrais pas. Elle se mit à bégayer et s'interrompit. La reine Ketriken est très seule, dis-je calmement. Elle est entourée de dames de compagnie, mais je ne pense pas qu'elle ait de véritables amis. Vous avez été la reine servante. Ne vous souvenez-vous pas de ce que c'était ? C'est sûrement différent pour elle de ce que c'était pour moi. Sans doute. Je me tournai vers la porte. Pour commencer, vous aviez un époux aimant et attentionné. Derrière moi, Patience émit un petit bruit étranglé. Et le prince royal n'était certainement pas aussi adroit qu'il l'est maintenant. Et vous aviez le soutien de Brodette. Oui, dame Patience, je suis sûr que c'est très différent pour elle. C'est beaucoup plus dur. Fitz Chevalerie. Je m'arrêtai devant la porte. Oui, madame.
Regarde-moi quand je te parle.
Je me retournai lentement, et elle tapa du pied.
Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu essayes de me faire honte? Crois-tu que je ne fais pas mon devoir? Que je ne connais pas mon devoir?
Madame.
J'irai la voir demain, et elle me trouvera bizarre, étourdie et maladroite. Elle va s'ennuyer à mourir en ma compagnie et rêver de l'instant où je m'en irai. Alors, tu viendras t'excuser de m'avoir forcé la main.
Vous avez sûrement raison, madame.
Remise tes manières de courtisan et va-t'en. Insupportable godelureau.
Elle tapa encore une fois du pied, puis s'enfuit vers sa chambre. Brodette me tint la porte ouverte. Elle en avait la bouche inexpressive et l'air réservé. Eh bien, fis-je en passant devant elle, car je savais qu'elle avait encore quelque chose à me dire. Je songeais que vous ressemblez beaucoup à votre père, observa-t-elle d'un ton revêche, mais en moins tenace. Il ne baissait pas les bras aussi facilement que vous. Et elle me ferma la porte au nez. Je contemplai un moment l'huis clos, puis me dirigeai vers ma chambre. Il fallait que je change le pansement de ma blessure au cou. Je montai une volée de marches, et le bras me lançait à chaque pas, et je m'arrêtai sur mon palier. Je restai quelques instants à regarder les bougies brûler dans leur support, puis je grimpai la volée suivante. Je frappai à la porte plusieurs minutes durant. À mon arrivée, la lueur jaune d'une chandelle filtrait sous le battant, mais quand j'avais commencé à frapper, elle s'était brusquement éteinte. Je pris mon poignard et tentai sans discrétion de débloquer le verrou. Elle l'avait changé. Apparemment, il y avait aussi une barre, trop lourde pour que je la soulève de la pointe de ma lame. J'abandonnai et m'en allai. Descendre est toujours plus facile que monter. Cela peut même devenir trop facile lorsqu'on a un bras blessé. Je contemplais la dentelle blanche des vagues qui se brisaient sur les rochers, loin en dessous de moi. Œil de nuit ne s'était pas trompé. La lune avait réussi à pointer le nez. La corde glissa un peu entre mes doigts gantés, et mon bras blessé dut supporter mon poids. Je grognai. Il n'y en a plus pour longtemps, me répétais-je, et je me laissai encore descendre de deux pas. La saillie de la fenêtre de Molly était moins large que je ne l'espérais, et je gardais la corde enroulée autour de mon bras en y prenant pied. La lame de mon poignard s'inséra sans difficulté dans l'interstice des volets mal joints. Le locto du haut avait déjà cédé, et je travaillais sur celui du bas quand j'entendis la voix de Molly s'élever de l'intérieur.
Si tu entres, je hurle, et les gardes viendront. Dans ce cas, tu ferais bien de leur préparer du thé, répondis-je, les dents serrées, avant de me remettre à manipuler le loqueteau. L'instant suivant, Molly avait ouvert grand les volets. Sa silhouette se découpait dans la fenêtre, éclairée de dos par la lumière dansante des flammes dans la cheminée. Elle était en chemise de nuit, mais ne s'était pas encore tressé les cheveux. Il lui tombait sur les épaules, luisant d'avoir été brossé. Elle avait jeté un châle sur ses épaules.
« Va-t'en !» me dit-elle brutalement. « Va-t'en d'ici !»«
Impossible !» répondis-je, entre deux halètements. « Je n'ai pas la force de remonter, et la corde n'arrive pas au pied du mur. »«
Je ne veux pas que tu entres !» fit-elle entêtée.
« Très bien. » Je m'assis sur l'appui-fenêtre, une jambe dans la chambre, l'autre dans le vide. Le vent soufflait en rafale qui agitait la chemise de nuit de Molly et attisait les flammes. Je me taisais. Au bout d'un moment, elle se mit à frissonner de froid.
« Que veux-tu ? »
siffla-t-elle, furieuse.
« Toi,
je souhaite t'avertir que demain, je compte demander au roi la permission de t'épouser. » Les mots avaient jailli sans que je l'eusse prémédité. Avec un soudain vertige, je pris conscience que je pouvais faire tout ce que je voulais. Absolument tout. Molly me dévisagea, stupéfaite, puis la voix basse. « Je ne désire pas t'épouser. » Ça, je n'avais pas l'intention de le lui dire. Et sans le vouloir, je lui fis un sourire radieux.
« Tu es insupportable. »
« C'est vrai, et je suis gelé. Je t'en prie, laisse-moi entrer au moins pour me mettre à l'abri du froid. » Elle ne m'en donna pas vraiment l'autorisation, mais elle s'écarta de la fenêtre. Je sautai de mon rebord sans prêter attention au contre-coup sur mon bras, puis fermai et verrouillai les volets. Ensuite, je m'approchai de la cheminée et rajoutai des bûches sur le feu pour chasser le froid de la pièce. Enfin, je me redressai et me réchauffai les mains aux flammes. Molly ne pipait mot. Elle se tenait droite comme une épée, les bras croisés. Je lui jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule et souris. Elle conserva son expression fermée.
« Tu dois t'en aller. »
Je sentis mon sourire s'effacer. « Molly, tout ce que je te demande, c'est de me parler. La dernière fois, j'ai eu l'impression que nous nous comprenions, et maintenant tu ne m'adresses plus la parole. Tu te détournes de moi. Je ne sais pas ce qui a changé. Je ne comprends pas ce qui se passe entre nous. »
« Rien. »
Elle parut tout à coup très fragile.
« Rien ne se passe entre nous. Rien ne peut se passer entre nous, Fitz-Chevalerie. »
Que ce nom sonnait étrangement dans sa bouche.
« J'ai eu le temps de réfléchir. Si tu étais venu comme aujourd'hui, il y a une semaine ou un mois impétueux, rayonnant, je sais que je te serais tombé dans les bras. »
Un triste fantôme de sourire erra sur ses lèvres, comme au souvenir d'un enfant, mort depuis, qui gambadait dans la lumière d'un jour d'été, il y avait bien longtemps.
« Mais tu n'es pas venu. Tu es resté correct, terre à terre, convenable. Et cela va te paraître bête. Mais ça m'a fait mal. Je me répétais que si tu m'aimais aussi fort que tu le prétendais, rien, ni les murs, ni les bonnes manières, ni les on-dit, ni le protocole, rien ne pourrait t'empêcher de me voir. L'autre nuit, lorsque tu es entré chez moi, lorsque nous... Mais ça n'a rien changé. Tu n'es pas revenu. »
Effaré, j'essayais de me défendre.
« C'était pour ton bien. Pour ta réputation.
Chut !
Je t'ai dit que c'était bête.
Mais les sentiments n'ont rien à voir avec la raison. Ils sont...
C'est tout.
Ton amour pour moi n'était pas raisonnable. Ni le mien pour toi. J'ai fini par m'en rendre compte, et aussi de ce que la raison doit passer avant les sentiments. » Elle soupira. J'étais dans une colère noire la première fois que ton oncle m'a parlé. J'étais indigné. Du coup, je me suis raidi, et j'ai décidé de rester malgré tout ce qu'il pouvait y avoir entre toi et moi. Mais je ne suis pas en pierre. Et même alors, la pierre finit par s'user sous le ruissellement glacé du bon sens.
Mon oncle ? Le prince royal ?
La perfidie me laissait pantois. Elle hocha lentement la tête.
Il voulait que je ne parle à personne de sa visite.
Si tu étais au courant, il n'en sortirait rien de bon, selon lui, et il devait agir dans l'intérêt de sa famille. Il a dit que je devais le comprendre. Et en effet, je l'ai compris, mais ça m'a rendue furieuse. Ce n'est qu'avec le temps qu'il a réussi à me démontrer que c'était aussi dans mon intérêt. Elle s'interrompit et s'essuya la joue d'une main. Elle pleurait sans bruit et les larmes coulaient sur son visage. Je m'approchai d'elle et d'un geste hésitant, je la pris dans mes bras. À ma grande surprise, elle se laissa faire. Je la serrai délicatement contre moi comme un papillon qu'il faut prendre garde de ne pas écraser. Elle pencha la tête en avant. Son front se posa sur mon épaule et elle dit le visage dans ma chemise. Encore quelques mois et j'aurai assez économisé pour me remettre à mon compte. Pas pour ouvrir une boutique, mais pour louer une chambre quelque part et trouver du travail pour subvenir à mes besoins et commencer à mettre de l'argent de côté pour un commerce. C'est le but que je me suis fixé. Dame patience et gentille. Et Brodette est devenue une véritable amie, mais je n'aime pas être servante, et je ne continuerai pas plus qu'il n'est indispensable. » Elle se tut, et resta sans bouger dans mes bras. Elle tremblait un peu, comme si elle était exténuée. On avait l'impression qu'elle avait épuisé sa réserve de parole. « Que t'a dit mon oncle ?» demandai-je, sans avoir l'air d'y toucher. « Oh !» Elle renifla et déplaça son visage contre ma poitrine. Je crois qu'elle essuyait ses larmes sur ma chemise. Rien d'autre que ce à quoi j'aurais dû m'attendre. Quand il m'a abordé la première fois, il était froid et hautain. Il me prenait pour une putain, je suppose. Avec un air sévère, il m'a averti que le roi ne tolérerait pas d'autres scandales. Puis il a exigé de savoir si j'étais enceinte. Naturellement, ça m'a mise en colère. Je lui ai répondu que c'était impossible, que nous n'avions jamais. Molly s'interrompit, et je sentis à quel point elle avait été humiliée qu'on pût seulement lui poser la question. Alors, il m'a dit que, dans ce cas, c'était parfait. Il m'a demandé ce que je pensais devoir obtenir en réparation de tes tromperies. Ce dernier terme était comme un petit poignard qui m'aurait fouillé le ventre. Je sentais la rage monter en moi, mais je me forçais au silence, afin que Molly pût terminer de vider l'abcès. Je lui ai dit que je ne voulais rien, que je m'étais fait des illusions autant que tu m'en avais donné. Du coup, il m'a proposé de l'argent pour que je m'en aille et que je ne parle plus jamais de toi, ni de ce qui s'était passé entre nous. Son élocution devenait hésitante. À chaque phrase, sa voix était plus aiguë et plus tendue. Elle reprit un semblant de calme que, je le savais, elle ne possédait nullement. Il m'a offert de quoi ouvrir une chandellerie. Je me suis mise en colère et je lui ai dit que je n'arrêterais pas d'aimer quelqu'un pour de l'argent, que si l'argent pouvait me faire aimer ou ne pas aimer, alors c'est que j'étais vraiment une putain. Un sanglot la convulsa, puis elle se tint immobile. Je caressai doucement ses épaules crispées, ses cheveux plus doux et plus luisants qu'une crinière de cheval. Elle se taisait. « Royal sème la zizanie, » m'entendis-je dire. « Il cherche à me faire du mal en te forçant à partir, à m'humilier en te blessant. » Je secouai la tête, sidéré par ma propre stupidité. J'aurais dû le prévoir. Et moi qui croyais seulement qu'il risquait de répandre des rumeurs contre toi, ou de s'arranger pour qu'il t'arrive un accident. Mais Burick a raison. Cet homme n'a aucune morale. Il n'obéit à aucune règle. Il s'est d'abord montré froid, mais jamais grossier. Il venait en tant que messager du roi, disait-il, et en personne, pour éviter le scandale, afin que nul n'en sache plus que nécessaire. Il cherchait à éviter les ragots, pas à les susciter. Plus tard, après que nous avons parlé deux ou trois fois ensemble, il m'a dit qu'il regrettait de me voir dans ce mauvais cas et qu'il convaincrait le roi que ce n'était pas de mon fait. Il m'a même acheté des chandelles et a fait savoir autour de lui ce que j'avais à vendre. Je crois qu'il essaye d'arranger les choses, Fitz-Chevalerie, en tout cas de son point de vue. L'entendre défendre ainsi Royal m'était bien plus douloureux que toutes les avanies et tous les reproches dont elle pouvait m'agonir.
Mes doigts se prirent dans ses cheveux et je m'en démêlai délicatement. Royal. Pendant des semaines, j'étais resté seul, à l'écart de Molly, sans lui adresser le moindre mot de peur de causer un scandale. Et en réalité, je l'avais laissé sans défense devant Royal. Oh, il ne l'avait pas courtisé, non, mais il l'avait embobiné par son charme consommé et ses belles paroles. Puis il l'avait taillé à coups de hache dans l'image qu'elle avait de moi, alors que je n'étais pas là pour le contredire. Il s'était posé en allié, tandis que, incapable de me défendre, j'étais réduit au rôle du jeune blanc-bec étourdi, du méchant indélicat. Je me mordis la langue pour m'empêcher de le débiner davantage. J'aurais eu l'air d'un gamin en colère qui se venge parce qu'on contrarie sa volonté. « As-tu parlé des visites de Royal à Patience ou à Brodette » qu'ont-elles dit de lui. Elle secoua la tête, et le parfum de ses cheveux me monta aux narines. Il m'a fortement conseillé de ne rien dire à personne. Les femmes bavardent, a-t-il ajouté, et je sais que c'est vrai. Je n'aurais pas dû t'en parler. D'après lui, Patience et Brodette auraient davantage de respect pour moi si je donnais l'impression d'avoir pris ma décision seule. Et aussi, il a dit que tu ne me laisserais pas partir, si tu pensais que la décision venait de lui, qu'il fallait te persuader que je me détournais de toi de mon propre chef. Il me connaît bien, admis-je. Je n'aurais pas dû t'en parler, murmura-t-elle. Elle s'écarta un peu de moi et leva le regard vers moi. Je ne sais pas ce qui m'a prise. Ses yeux et ses cheveux avaient des teintes de forêt. Peut-être ne voulais-tu pas que je te laisse partir, fis-je. Il le faut, dit-elle. Tu sais comme moi que nous n'avons aucun avenir ensemble. Il y eut un instant de paix absolue. Le feu crépitait doucement. Molly et moi étions immobiles. Mais, j'ignore comment, je me retrouvais ailleurs, dans un lieu où j'avais douloureusement conscience du moindre parfum, du moindre contact de Molly. Ses yeux, la fragrance sylvestre de sa peau et de ses cheveux ne faisaient qu'un avec la tiédeur et la souplesse de son corps sous sa chemise de nuit en laine moelleuse. Je percevais sa présence comme une couleur nouvelle soudain révélée à mes yeux. Toutes les angoisses, toutes les pensées même étaient suspendues dans ce brusque état de conscience. Je sais que je m'étais mis à trembler, car elle posa ses mains sur mes épaules et les serra pour me calmer. Ses paumes diffusaient une chaleur qui s'écoula en moi. Je baissai les yeux vers son visage et m'émerveillai de ce que j'y vis. Elle m'embrassa. À cet acte simple, cette offrande de ses lèvres, j'eus l'impression que des vannes s'ouvraient tout grand en moi. Ce qui suivit fut la continuation naturelle de son baiser, sans considération de raison ou de morale de ma part ni de la sienne, sans hésitation. La permission que nous nous donnâmes l'un à l'autre était absolue. Nous nous aventurâmes ensemble, dans ce territoire vierge, et je n'imagine pas union plus intime que celle que nous apporta notre étonnement commun. Nous nous fondîmes tout entiers dans cette nuit, libres d'attente et de souvenirs. Je n'avais pas davantage de droit sur elle qu'elle sur moi. Mais je donnais, et je pris, et je jure que je ne le regretterai jamais. Je garde dans ma mémoire la tendre maladresse de cette nuit comme le bien le plus précieux de mon âme. Sous mes doigts tremblants, le ruban qui fermait le col de sa chemise de nuit forma un nœud inextricable. Molly paraissait calme et sûre d'elle-même lorsqu'elle me toucha, mais un petit cri de saisissement trahit sa surprise quand je réagis à son contact. C'était sans importance. Notre ignorance céda peu à peu la place à un savoir plus ancien qu'elle et moi. Je m'efforçais de me montrer à la fois doux et fort, mais je restais stupéfait devant la douceur et la force de Molly. J'ai entendu parler de danse, j'ai entendu parler de combat. Certains hommes l'évoquent avec un rire de connivence, d'autres en ricanant. J'ai entendu les solides marchandes englousser comme gloussent les poules devant des miettes de pain. J'ai été accosté par des maquereaux qui vantaient leurs articles avec le même aplomb qu'un mareyeur du poisson frais. Pour ma part, je crois que certaines choses sont au-delà des mots. Il faut faire l'expérience de la couleur bleue pour la connaître, de même que le parfum du jasmin ou le son de la flûte. La courbe d'une épaule tiède et nue,
le moelleux purement féminin d'un sein, le petit hoquet surpris que l'on émet lorsque toutes les barrières tombent soudain, le parfum de sa gorge, le goût de sa peau ne sont que des fragments, et si doux soit-il, il n'englobe pas le tout. Mille détails semblables ne l'illustreraient encore pas. Les bûches de l'âtre n'étaient plus que braises rouges sombres. Les chandelles avaient fondu depuis longtemps. J'avais le sentiment d'être dans un lieu où nous étions entrés étrangers et où nous nous étions découverts chez nous. J'aurais, je crois, donné le reste du monde pour demeurer dans ce nid alangui de couvertures et d'édredons en désordre, à respirer sa chaude immobilité. Frère, c'est parfait. Je sautais en l'air comme un poisson ferré, en tirant du même coup Molly de sa rêverie. Qu'y a-t-il ? Une crampe au mollet, dis-je. Elle me crut et éclata de rire. Ce n'était rien, mais soudain j'eus honte de ce mensonge, de tous les mensonges que j'avais dit, et de toutes les vérités dont j'avais fait des mensonges en ne les disant pas. J'ouvris la bouche pour tout lui avouer, que j'étais l'assassin royal, l'instrument de meurtre du roi, que la connaissance d'elle qu'elle m'avait donnée cette nuit avait été partagée par mon frère le loup, qu'elle s'était offerte de plein gré à un homme qui en tuait d'autres et dont la vie était inextricablement mêlée à celle d'un loup. C'était impossible. Si je lui avouais cela, je lui ferais mal et je l'humilierais. Pour toujours, elle se sentirait salie par le contact que nous avions partagé. Je me dis que je pouvais supporter qu'elle me méprise, mais pas qu'elle se méprise elle-même. Je me persuadais que je fermais la bouche parce que c'était l'attitude la plus noble, que garder ses secrets pour moi valait mieux que laisser la vérité l'anéantir. Me mentais-je à moi-même ? Et n'en sommes-nous pas tous là ? Étendu sur le lit, dans la tiède étreinte de ses bras, son corps chaud contre mon flanc, je me promis de changer. Je cesserai d'être tout ce que j'étais, et je n'aurai alors plus rien à lui avouer. Demain, je dirai à Humbre et à Subtil que je ne voulais plus tuer pour eux. Demain, je ferai comprendre à Œil de Nuit pourquoi je devais rompre mon lien avec lui. Demain. Mais aujourd'hui, ce jour qui commençait déjà à poindre, je devais partir, le loup à mes côtés, pour chasser et assassiner les forgisés, parce que je voulais me présenter à Subtil auréolé d'un triomphe récent, afin de le mettre d'humeur à m'accorder la faveur que je lui demanderais. Ce soir même, une fois terminée ma basse besogne, je le prierai de nous autoriser, Molly et moi, à nous marier. Je me jurai que son assentiment marquerait pour moi le début d'une existence nouvelle, celle d'un homme qui n'aurait plus rien à cacher à la femme qu'il aimait. Je lui baisai le front, puis repoussai délicatement ses bras. « Je dois te quitter », murmurai-je alors qu'elle se réveillait. « Mais j'espère que ce ne sera pas pour trop longtemps. Aujourd'hui, je vais aller voir Subtil pour obtenir la permission de t'épouser. » Elle ouvrit les yeux et eut l'air presque étonnée en me voyant sortir nue de son lit. J'ajoutai du bois sur le feu, puis, en évitant son regard, je ramassai mes habits et les enfilai. Elle n'avait pas tant de pudeur, car en finissant de boucler ma ceinture, je m'aperçus qu'elle m'observait en souriant. Je rougis. « J'ai l'impression que nous sommes déjà mariés, » chuchota-t-elle. « Je n'imagine pas comment des vœux solennels pourraient nous unir davantage. » « Moi non plus. » Je m'assis au bord du lit et lui pris les mains. Mais ce sera une grande satisfaction pour moi de rendre notre union publique. Et cela, madame, nécessite un mariage et la déclaration formelle de tout ce que mon cœur vous a déjà juré. Mais pour le moment, je dois m'en aller. Pas tout de suite. Reste encore un peu. Il doit bien y avoir encore un peu de temps avant que le château ne s'éveille. Je me penchai pour l'embrasser. Je dois m'en aller dès maintenant, pour récupérer certaines cordes accrochées au rempart et qui pend devant la fenêtre de madame. Sa découverte pourrait susciter des commentaires. Laisse-moi au moins le temps de changer tes pansements au bras et au cou. Mais comment as-tu fait pour t'arranger ainsi ? Je voulais te le demander hier soir, mais... Je souris. Je sais. Il y avait des sujets plus intéressants à traiter. Non, mon amour. Mais je te promets de m'en occuper ce matin, dans ma chambre. L'appeler « mon amour » me donnait davantage l'impression d'être un homme qu'aucun autre mot. Je l'embrassai à nouveau, en me jurant de partir aussitôt, mais sa main sur mon cou me retint. Je soupirai. Il faut vraiment que je m'en aille. Je sais, mais tu ne m'as pas dit comment tu t'étais fait mal. Je sentis bien qu'elle ne me pensait pas gravement blessée et que ce n'était qu'un prétexte pour me garder auprès d'elle. Néanmoins, c'est avec honte que je mentis, en m'efforçant de rendre mon mensonge le plus bénin possible. J'ai été mordu par une chienne dans les écuries. Je ne devais pas la connaître aussi bien que je le croyais, parce que quand je me suis baissé pour prendre un de ses chiots, elle se jetait sur moi. « Mon pauvre. Enfin. Es-tu sûr d'avoir bien nettoyé les plaies ? Les morsures d'animaux, ça s'infecte facilement. » Je les nettoierai encore une fois quand je referai le pansement. Je ramenai l'édredon sur elle, non sans regret à l'idée de quitter cette tiédeur. Essaye de dormir un peu avant que le jour se lève. Fitz-chevalerie ? Je m'arrêtai devant la porte et me retournai. Oui. Reviens chez moi ce soir, quelle que soit la réponse du roi. J'ouvris la bouche pour protester. Jure-le-moi. Sinon, je ne survivrai pas à cette journée. Jure-moi que tu reviendras. Car, quoi que dise le roi, sache-le, je suis ton épouse maintenant. Et pour toujours. Toujours. Devant ce présent, je sentis mon cœur cesser de battre, et je ne pus que hocher la tête sans rien dire. Mais mon expression dut parler pour moi, car le sourire qu'elle me fit était rayonnant et doré comme un soleil d'été. Je soulevai la barre et glissai le loquet de la porte. J'ouvris doucement le battant et jetai un coup d'œil dans le couloir ténébreux. « Veille bien refermer derrière moi » soufflai-je. Puis, je m'éclipsai dans le peu de nuit qui restait.